Cyril Dion avec nous pour évoquer cette année 2020. L'année 2020, le Covid, un effondrement économique, et en même temps, à cause du confinement, ou grâce au confinement, diraient certains, une baisse des émissions des gaz à effet de serre à l'échelle globale de 17% quasiment. Alors c'est une aporie, comment la résout-on? Il faudrait que tout le monde soit confiné régulièrement chaque année pour que la planète reste habitable. Comment fait-on, Cyril Dion?
Idéalement non, je pense que personne n'a envie de passer une année 2020 tous les ans. Enfin moi en tout cas, j'ai pas tellement envie. Donc comment on fait? On le sait malheureusement. Enfin, je veux dire, il y a des plans, il y a des trajectoires qui ont été faites. On sait qu'il faut réduire l'utilisation des énergies fossiles, donc là où on les utilise le plus, dans les transports, beaucoup, je crois qu'on va en parler, dans l'agriculture, dans le chauffage, on se chauffe encore beaucoup au bois, au fioul, au gaz. On a besoin d'aller vers une alimentation beaucoup moins carnée. On a besoin de réinventer un peu notre façon d'organiser les villes.
Vous êtes végétarien ?
J'ai été végétarien pendant plusieurs années. Maintenant, j'en mange un petit peu, de temps en temps.
Ah, alors, vous ne faites pas ce que vous dites qu'il
faut
faire.
Non, c'est plus une question de santé, en fait. C'est que je suis intolérant au lactose et au gluten, si vous voulez tout savoir. Et que ma vie, quand je ne peux pas manger ni de viande, ni de poisson, ni de blé, ni de lait, pour quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est un peu compliqué.
Est-ce que la pandémie est une crise écologique? On a beaucoup évoqué la pression sur les habitats forestiers des animaux, notamment des pangolins, des chauves-souris, et puis ces virus, les zoonoses, c'est-à-dire un mode de transmission du virus de l'animal à l'homme.
On ne sait pas encore exactement d'où vient la Covid. Il y a encore des hypothèses sur des erreurs humaines, comme sur des transmissions depuis la chauve-souris vers le pangolin, vers les humains. Ce qui est sûr, en tout cas ce que énormément de scientifiques disent aujourd'hui, c'est que plus on déforeste, plus on détruit l'habitat des animaux sauvages, plus les animaux sauvages se mettent à nicher dans des endroits qui sont proches à la fois des êtres humains et des animaux d'élevage, et ils ont plus de chances de trouver un réservoir intermédiaire qui nous transmet ces virus. Donc ce qui est certain, c'est que si on continue comme ça, là on voit ces images de déforestation un peu partout, on va vers plus de virus. On sait aussi que le dégel d'un certain nombre
dans
de régions du monde
pourrait
faire ressurgir un certain nombre de virus auxquels nous ne sommes plus vraiment habitués ou auxquels nous ne sommes pas du tout habitués. Et donc, c'est des hypothèses que des virologues et des scientifiques étudient avec un peu d'effroi.
Ça, c'est l'hypothèse et la hantise des glaciologues. Anne ?
Oui, il y a eu un certain discours écologique, je ne dis pas du tout forcément le vôtre, mais on a semblé qu'il y avait comme une récupération justement de la pandémie, vous savez, comme quand on l'aurait en gros cherché, à la manière du père Panou dans La Peste qui disait « mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l'avez mérité ».
La sentence divine.
Voilà. Est-ce que c'est pas comme ça un peu les nouveaux, parfois un nouveau discours moralisateur quand c'est trop généralisé comme ça?
Là, en l'occurrence, plein de scientifiques le disent, mais depuis des années. Donc c'est pour ça que je prends des précautions ce soir et que je vous dis pas c'est la punition du ciel. Je vous dis, on ne sait pas encore exactement d'où vient la Covid. Mais on sait que la déforestation et la destruction des écosystèmes augmentent la quantité de virus en circulation. Le MERS, le SRAS,
Ebola,
tout ça, ce sont en fait des zoonoses qui sont passées de réservoirs d'animaux sauvages à des réservoirs humains. L'autre chose, c'est que industrialiser, par exemple, notre alimentation, et particulièrement dans l'élevage, c'est-à-dire avoir des batteries de poulets ou des batteries de cochons qui sont, en gros, s'il y en a un qui est infecté, tout l'élevage va être infecté. C'est ce qu'on a vu avec la grippe aviaire, c'est ce qu'on voit là aussi avec les visons, exactement. Ça nous aide pas beaucoup non plus. Non seulement c'est absolument indigne et fait vivre les animaux dans des circonstances terribles, mais ça a tendance à accélérer ce type de phénomène.
Cyril Dion.
Et l'idée de l'ASPAS, c'est l'Association pour la protection des animaux sauvages. C'est une ONG qui a donc collecté les dons de particuliers. Elle a acheté des terres, des forêts, essentiellement pour les sanctuariser, c'est-à-dire créer une réserve où la biodiversité pourra s'épanouir. Ils ont, par exemple, mis la main sur un ancien terrain de chasse privé dans le Vercors, gigantesque, ce que Madeleine Rubin, la directrice de l'association, a appelé un ancien parc d'attractions pour chasseurs de 500 hectares. À l'entrée, il y a un panneau qui signale ce qui est interdit de faire à cet endroit. pêcher, bien entendu, chasser évidemment, cueillir, promener son chien. Seules les balades contemplatives sont autorisées. Et alors ça, ça marche parce qu'on voit des animaux revenir, on voit la flore revenir. Ça marche, mais ça crispe aussi puisque des chasseurs et des agriculteurs aussi disent non à ce qu'ils appellent le réensauvagement. Cyril Dion, on voit cette solution-là qui est apportée. C'est une aux citoyens de mettre et la main à la poche et la main dans le cambouis, voire dans la terre, pour préserver, pour sauver la biodiversité.
Ben, aux citoyens et aux États. Aussi. Moi, là, je viens de terminer un film qui s'appelle Animal, qui sortira l'année prochaine. Ouais. On a été filmé au Costa Rica. Ils sont passés de 20% de couverts forestiers à 50% en construisant une économie, justement, qui fait que, à la fois par le tourisme, c'est-à-dire que les gens payent pour que les forêts restent debout. J'ai des amis qui sont allés au Costa Rica qui m'ont dit, tu te rends compte, quand on va dans les parcs naturels, on est obligé de payer. Je dis, bah oui, mais en fait, vous payez pour que les forêts restent debout. Et c'est du tourisme vraiment avec très peu d'impact. Nous, on a dormi dans des espèces de hamacs avec des moustiquaires et on marche dans des sentiers en faisant pas de bruit et en regardant les animaux. Ils sont aujourd'hui à 50% de couverts forestiers. La biodiversité est absolument partout. Et c'est non seulement extraordinaire
c'est
pour
et
nous.
Et les citoyens, les deux.
Bah, là, les citoyens sont encouragés à le faire parce que l'État leur fournit des arbres et ils peuvent aller planter des arbres tous les week-ends. Mais c'est quand même un programme qui a été mis en œuvre. En Éthiopie aussi, je crois que c'était. Ils ont planté plusieurs milliards d'arbres, quelques mois. Les citoyens, évidemment, se sont investis. Mais c'était quand même une planification qui était un peu nécessaire, je pense, pour arriver à cette échelle-là.
Cyril Dion, on va le redire ad nauseam, vous êtes l'un des trois garants de cette Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous l'avez proposé en 2019 à Emmanuel Macron de revaloriser la démocratie participative parce que la démocratie représentative ne représente pas assez les gens que nous sommes, les citoyens?
Ce que j'avais en tête, c'est que ça fait 40 ans qu'on sait que le réchauffement climatique existe, qu'on sait ce qu'il faudrait faire, qu'on sait les conséquences que ça va avoir. Et que les gouvernements font rien. Il doit bien y avoir une raison.
Pourquoi ils ne font rien?
Donc, ce qui me semble, c'est que il y a plusieurs raisons, mais parmi ces raisons, il y a le fait que les mesures qui devraient être prises aujourd'hui sont des mesures assez radicales. Plus on attend, et d'ailleurs, plus elles doivent être radicales. Or, pour un président qui cherche à se faire réélire et qui cherche plus ou moins à plaire à tout le monde, c'est pas en général le type de mesures qu'il a envie d'entreprendre. Donc, ce que je disais à Emmanuel Macron, c'est comme on sait que vous le ferez pas, comme on sait qu'il faut quand même le faire. Et comme on sait que ces mesures ne sont pas facilement acceptables par une partie de la population, la meilleure façon d'y arriver, c'est de faire en sorte que 150 personnes qui sont représentatives de toute la diversité des Français, à la fois auditionnent des scientifiques, en gros, se fassent une idée de la situation et élaborent des propositions qui soient non seulement acceptables pour elles-mêmes, c'est-à-dire qui se disent « Ok, si ce truc-là est promulgué, est-ce que dans ma vie ça marche ?» Et qui regardent tous par rapport à leurs conditions, les ruraux, les urbains, les jeunes, les vieux, etc. Et qu'ensuite, ces propositions-là puisse être soumise au Parlement ou au référendum, c'est-à-dire que ça puisse à nouveau passer par le filtre des Français et que les Français décident d'eux-mêmes de prendre ces mesures. En gros, moi, ce que je pense qu'il nous manque pour le climat, mais globalement pour la démocratie, c'est des espaces où on est capable de se mettre d'accord, c'est-à-dire de se poser autour d'une table et de se dire quels sont les problèmes, est-ce qu'on est d'abord d'accord sur le constat, et une fois qu'on est d'accord sur le constat, qu'est-ce qu'on décide ensemble de faire pour y parvenir. Comme c'est toujours en gros, pris par petits bouts, et que chacun essaie de défendre son bout de gras, on ne fait jamais ce travail.
C'est la force du collectif.
C'est ce qu'a fait la Convention.
Et vous voulez valoriser la force du collectif.
Absolument, bien sûr. Là, en l'occurrence, quand la France et les Français s'interrogent sur leurs émissions de gaz à effet de serre, il faut regarder les deux. Dans l'empreinte carbone, par exemple, d'un Français, la moitié vient de ce qui est acheté et souvent de ce qui est importé. En gros, un Français émet un équivalent de 11,5 tonnes de carbone par an. Il y en a 6 qui sont directement liés à ce qui se passe en France et il y en a presque 6 qui sont liés à ça. Donc évidemment, il va falloir avoir une stratégie en demandant aux États, aux entreprises qui fabriquent des produits que nous allons importer de respecter les mêmes normes, peut-être de relocaliser une bonne partie, notamment de notre alimentation, ça c'est certain, une partie de notre industrie, pourquoi pas. On voit aussi que ça nous rendrait moins fragiles dans des circonstances comme celles qu'on vit là avec le coronavirus.
Sur les médicaments, par exemple, notamment.
Oui, absolument. Et qu'on puisse avoir comme une espèce d'analyse de cycle de vie, on le fait dans l'industrie pour les produits, où on regarde tout au long de la fabrication, puis du transport, puis de la distribution, puis de la consommation, ce que ça a comme impact. Il faudrait le faire à l'échelle du pays, oui.
Cyril Dion, une phrase m'a frappée en revoyant ces débats. Il faut les contraindre. Faut-il contraindre? Faut-il empêcher la publicité pour les produits les plus polluants? Faut-il en arriver à ce que d'aucuns, comme le philosophe Pierre-Henri Tavoyau, décrivent comme une écologie punitive?
Moi, je pense que c'est un piège, cette histoire. C'est-à-dire qu'on réfléchit dans une espèce de bocal. On regarde la société telle qu'elle est aujourd'hui et on se dit, tiens, il faudrait qu'elle devienne écolo. Et donc, évidemment... Ben, il faut enlever des avions, il faut enlever des voitures, il faut enlever plein de choses qui, dans la société telle qu'on la raconte, dans le récit dans lequel on vit, nous font plaisir. Donc ça ressemble à un truc punitif. Ce pourquoi je me bats depuis plusieurs années, c'est plutôt de changer de récit, c'est d'essayer de raconter une histoire différente, d'essayer de savoir ce qui donne vraiment du sens à notre vie. Est-ce que ce qui nous rend profondément heureux aujourd'hui, c'est d'avoir des voitures partout dans les centres-villes?
Et de surconsommer.
Et de surconsommer.
Mais...